Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025. Vendredi matin, quand j'ai écrit cette chronique, j'étais extrêmement concentré sur ce qui s'était passé chez Ferrari. Pourtant, en général, le cours de l'action Ferrari, on s'en fout. D'abord parce que c'est beaucoup monté depuis 10 ans et qu'en plus, pas tout le monde a les moyens d'en acheter. Ni des actions, ni des voitures. Et puis, au milieu de la chronique, j'ai mentionné une bête actualité qui disait que les Chinois allaient réglementer les terres rares. Je me suis dit, tiens, ça va faire plaisir à oncle Donald, ça. Et puis, je suis passé à autre chose. Pourtant, si j'avais réfléchi 2 minutes, j'aurais shorté du Bitcoin, comme quoi on est toujours plus intelligent après. Donc oui, lundi matin, on pensait que la semaine allait se terminer sur du velours, au plus haut de tous les temps, et que la semaine qui arrive sera hyper facile, parce que les chiffres trimestriels allaient arriver, et que forcément, ils seront meilleurs que les attentes, et puis si jamais ils ne sont pas meilleurs que les attentes, ben c'est pas grave, on baissera les taux tant que ça n'ira pas mieux. En gros, une journée comme d'habitude, pas de raison de se prendre la tête, tellement la bourse est facile depuis quelques mois, et tellement ça sera encore facile les mois prochains, parce que, hé, il y a l'intelligence artificielle quand même, et l'intelligence artificielle, c'est quand même l'avenir. Et puis en fait, non, en fait, juste un petit événement sur l'exportation des terres rares, simplement un petit bluff des Chinois qui ont voulu rouler des mécaniques électriques pour montrer aux Américains qu'eux aussi, ils avaient les moyens de leur mettre la pression. Et bien ce petit gonflement de biceps hyper discret nous a coûté 2 milliards de market cap. Il aura suffi d'un post sur Truth Social, le réseau préféré de Donald Trump, son réseau, pour envoyer le marché au tapis. Non seulement le marché, mais aussi les cryptos, bien sûr, les semi-conducteurs et aussi la belle confiance que l'on avait accordée au marché depuis des mois. Soudainement, entre 16h et 16h30 vendredi, le marché s'est fait décalquer. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui est assez fascinant dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour passer du rire aux larmes en ce moment. Pourtant, on était tellement convaincus de la hausse que ça paraît fou que ça puisse se péter la gueule vendredi. Pourtant, une histoire de terre rare que personne ne comprend et un message passif-agressif de Donald Trump, c'est le sauve-qui-peut général, on n'a rien besoin d'autre. Le message qui tue, c'était tout simplement « La Chine devient hostile, elle contrôle le monde via les terres rares, nous envisageons une augmentation massive des tarifs douaniers sur les produits chinois ». Un poste de 5 lignes, un poste de 161 caractères, espace compris. Résultat, 2000 milliards de dollars sont partis en fumée en quelques heures. Le S&P perdait 2,7%, le Nasdaq 3,5%, le Dow Jones 1,9%, et le tout sans une seule statistique macro, ce qui semble plutôt normal, puisqu'au cas où vous l'auriez oublié, le shutdown est toujours parmi nous. Vendredi, c'était un coup de sang digital, et si l'on en croit les tweets de Trump avant de décoller pour Israël, il n'en veut pas à Xi, et il comprend que le gars se soit énervé, et que soudainement, il n'est plus fâché. On en est à se demander si Trump et ses potes n'ont pas tout simplement couvert les shorts, qu'ils se sont mis longs, et qu'ils attendent juste l'ouverture de lundi matin. Oui, non, en fait, je suis idiot, ça fait longtemps qu'on se demande plus, ça devient juste indécent. C'est un peu comme le mec qui a shorté une montagne de Bitcoin à 122 000 $ 30 minutes avant que Trump publie son post incendiaire vendredi dernier. Un pur hasard. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la vidéo est ci-dessous et je vous la raconte. Ceci dit, hier soir, avant de partir fêter son plan de paix à Gaza, le président américain a redonné de l'espoir au marché. On a vraiment l'impression qu'il s'amuse à faire ce qu'il veut et nous, on suit comme si on n'avait pas le choix. Ce matin, après une nouvelle taco à la Trump, la guerre commerciale avec la Chine est déjà oubliée. Il y a même des banques d'affaires américaines qui sont déjà intervenues ce week-end pour dire que dans le cas de cette histoire de trade war qui se serait éventuellement déclenchée vendredi dernier, je cite, « Dans le cas présent, les aboiements du président sont sûrement bien pires que la morsure. » Comprenez que Trump a piqué sa crise vendredi soir, le marché aurait réfléchi 3 secondes avant d'effacer 2000 milliards de capitalisation boursière et une quantité astronomique du côté des cryptos. Et dimanche soir, tout est oublié et nous sommes tous frères. On peut se demander si le président américain n'est pas complètement con ou si c'est simplement le marché qui n'est même plus capable de réfléchir avant d'agir. Ou alors que les algos sont tous programmés pour réagir, ou plutôt surréagir, ce qui justifierait ces mouvements complètement débiles. Je vous avoue que je ne sais pas où se cache la vérité dans tout ça, mais on n'est pas dedans et ça ne laisse rien présager de bon pour l'avenir des marchés qui deviennent victimes de leur propre technologie ou de leur propre psychologie. À l'heure où je vous écris, il n'est pas simple de savoir si l'affaire de la nouvelle trade war est déjà terminée et que dans 3 jours nous serons en train de nous battre à des nouveaux records d'altitude. Mais une chose est certaine, à 1h31 du matin, les futurs sont en hausse de 1% et l'affaire semble plier. Même si depuis vendredi dernier, le seul qui brasse de l'air dans tous les sens pour raconter tout et n'importe quoi, c'est Trump. On n'a pas entendu Xi sur le sujet et, mis à part quelques contre-menaces officielles de la part du gouvernement chinois qui encourageaient les Américains à ne pas être complètement cons dans ce jeu de bataille des égos, on n'en sait pas plus ce matin et peu importe les tweets de Trump à ce jour, la Chine n'a pas changé d'avis et a toujours décidé de resserrer le contrôle sur les terres rares. Vous savez, ces métaux indispensables pour fabriquer les puces, les batteries, les avions, les missiles, les voitures électriques, les voitures pas électriques et vos smartphones. Sans la Chine et ses terres rares, le monde moderne se résumerait à se déplacer en vélo, pas en vélo électrique, hein, en vélo tout court, en planche à roulettes et pour le reste, ça serait éclairage à la bougie et FIFA 2026 se jouerait avec un vrai ballon, dehors, dans le jardin. Trump a donc été hyper vexé de se faire prendre en otage par les métaux et a répliqué à la manière d'un adolescent frustré de ne pas pouvoir rentrer après minuit. Et puis là, cette nuit, soit les marchés ont fait effet de contre-pouvoir, merci à qui de droit pour le terme contre-pouvoir, soit quelqu'un à la Maison-Blanche lui a glissé à l'oreille qu'il fallait quand même y aller mollo avec les Chinois, parce que si, effectivement, la Chine a besoin du consommateur américain, les Américains ont besoin de la Chine pour leur technologie de pointe. Visiblement, Trump a compris la chose et il va essayer de revenir au dialogue stratégique et diplomatique plutôt que d'appliquer la technique du bulldozer dont il a le secret. Maintenant, nous sommes lundi matin, une nouvelle semaine commence et la saison des résultats va commencer également, mais ce lundi, c'est aussi le lundi de Columbus Day, le jour de l'arrivée de Christophe Colomb aux USA. Les marchés des actions seront ouverts, mais pas le marché obligataire et une bonne partie des banques seront fermées aux States et les volumes devraient être très faibles. Attention donc aux mouvements de volatilité qui pourraient se produire, mais au-delà de tout ça, il sera intéressant de voir comment cette histoire de trade war va être digérée. Si on se base sur le dernier message de Trump, la Chine et les USA sont copains comme cochons et ça va bien se passer. Reste à voir comment ça va se passer. Pour l'instant, comme à notre habitude, on va regarder le verre à moitié plein jusqu'à preuve du contraire. Mais à force de provoquer les Chinois, on ne sait jamais comment ça va se finir. Et je dois vous dire que pendant que je décortiquais la presse du week-end, avant que Trump nous fasse une démonstration de backpedaling, en exprimant son immense amitié pour Xi Jinping, j'ai été frappé par le fait qu'en plus de la pression mise au sujet de la trade war éventuelle, les médias financiers ont tout de suite pointé le doigt sur le fait que les valorisations sont lunaires, les PI moyens du S&P ont rarement été si élevés, ça rappelle l'an 2000, le Cape Schiller est plus ou moins au même niveau qu'en l'an 2000, le Cape Schiller c'est ce fameux indice qui dit qu'on est dans une bulle au-dessus de 30 et qu'aujourd'hui il frise les 40, on pointait aussi sur le fait que la dette publique est interstellaire et en route bien sûr pour les 50 000 milliards dans 10 ans, Trump est imprévisible, ça c'est rien de le dire, et puis qu'également il y a une hyper concentration des marchés. Près de la moitié de la capitalisation du S&P est allouée à 10 actions, laissant des miettes pour le reste, et l'ensemble des 2000 titres contenus dans le Russell 2000, l'indice des mid-small cap américaines, ne vaut même pas les 2/3 de la valorisation de Nvidia. Lorsqu'on prenait le temps de lire les opinions des journalistes et autres experts en bull market, on avait l'impression, enfin, j'avais l'impression que le marché est extrêmement tendu, et que même si ces derniers mois il a fait preuve d'une résilience et d'une puissance ahurissante, le moindre grain de sable dans la machine va nous faire rapidement revenir à la réalité. Réalité qui n'est pas aussi jolie que l'on veut bien l'imaginer en observant la tendance haussière du S&P ces 8 derniers mois. L'emploi va mal, l'inflation ne baisse pas, au contraire, elle donne des signes de reprise, le gouvernement américain est tellement partagé qu'il n'arrive même pas à se mettre d'accord sur un budget et pendant ce temps, Trump gère la paix dans le monde. Ce que je veux dire, c'est que ces derniers mois, les marchés financiers ont fait preuve d'une force relative impressionnante et d'un dédain spectaculaire des alertes économiques que l'on nous fournissait tout au long du chemin. Cependant, lorsque Trump a pété un plomb, ce qui lui arrive quand même assez régulièrement, on n'a pas hésité une seconde et on a tout jeté par-dessus bord, comme si c'était le signal qu'on attendait. Alors je ne sais pas, peut-être que Trump a éteint l'incendie en un seul tweet hier soir, mais disons qu'à force de jouer au pyromane, il y a un jour où un tweet ne suffira plus pour stopper l'hémorragie. D'accord, ça n'était peut-être pas pour cette fois, mais il y aura d'autres occasions de paniquer. Et à ce moment-là, n'oubliez jamais que les plus solides arguments qui justifiaient le fait de vendre les bijoux de la grand-mère et la PS5 du petit dernier pour acheter du Nvidia ou du Bitcoin vont se vaporiser dans l'atmosphère à la vitesse de la lumière, comme vendredi soir. Maintenant que le sujet terre rare et trade war est derrière nous, maintenant que Trump est parti tel le Messie pour aller fouler le sol de la Terre Sainte, on peut se concentrer sur l'avalanche de sujets qui nous occupent en ce moment. Notons déjà qu'il y a quand même de plus en plus d'articles qui reviennent sur le sujet du private credit, dans le sillage de l'affaire First Brands qui a coûté 500 millions à l'UBS, et on entend de plus en plus revenir le terme de subprime 2.0. Alors, je ne suis pas expert en subprime, et je crois que nous n'en sommes pas encore au même montant, puisqu'il se dit que ces structures de l'ombre gèrent maintenant 1700 milliards de dollars de prêts commerciaux, soit un tiers du crédit américain. À l'époque du subprime, on parlait de 1400 milliards. De ce point de vue-là, on peut avoir peur, mais si on creuse un peu, on se rendra compte que lors de la crise de 2008, ces 1400 milliards étaient leveragés pour atteindre 8 à 9 000 milliards via une montagne de produits structurés de merde. À l'heure actuelle, le private credit n'est pas en levier, ou alors beaucoup moins, mais le problème, c'est que c'est très opaque et on ne sait pas trop qui doit quoi à qui. À l'heure actuelle, la Fed est en train d'enquêter, les régulateurs ont des sueurs froides et les investisseurs font semblant de ne pas comprendre. Jusque-là, ça va, mais le jour où on commencera à comprendre que l'on a simplement déplacé le « greed is good ailleurs » et qu'encore une fois, ça va coûter très cher, on en reparlera. J'espère que ça va bien se passer, sincèrement, mais notez quand même qu'on en parle de plus en plus. Pendant ce temps-là, à Washington, le gouvernement est fermé, toujours, pas de statistiques, pas de CPI, pas de PPI, pas de chiffre de l'emploi, les investisseurs avancent dans le noir complet, et la Fed aussi. Le CPI et le PPI devaient sortir cette semaine, mais au vu de la situation au Capitole, ça paraît extrêmement mal embarqué. Cette semaine, les grandes banques américaines publient leurs résultats, JP Morgan, Citigroup, Goldman, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley. Faute de données macro, leurs bilans deviennent le seul thermomètre de l'économie réelle. Les analystes du secteur ont même relevé leurs prévisions de profit bancaire pour la première fois depuis 2021. C'est courageux, la marge d'erreur est quand même microscopique, un chiffre mal interprété, un mot de travers et le marché pourrait se reprendre une claque. Et pour mémoire, le mois d'octobre reste le mois le plus volatile de l'année, les claques partent toujours plus vite et tapent toujours plus fort. Pour le reste, on a le cirque français qui continue son spectacle et qui continue de sombrer dans le ridicule. Le clown qui leur sert de président a donc précipité les choses, il a renommé le cornu et il l'a forcé à précipiter la formation de son gouvernement avant de vite partir ventre à terre en Égypte pour soutenir l'effort de paix à Gaza. Il vient d'essayer de récupérer des pétales de rose pour que l'histoire se souvienne qu'il était là pour cirer les pompes de tout le monde. Et pendant ce temps, le cornu a tiré au sort ses ministres dont le bottin de téléphone. Ce qui fait que personne ne les connaît. Enfin, sauf Darmanin, qui visiblement est indéboulonnable du ministère de la Justice, à croire qu'il a tellement de casseroles que le jour où il s'en va, il va directement en cellule avec Sarkozy. Bref, pour faire simple, ce gouvernement est censé présenter un budget pour sauver la France, mais il suffit que les socialistes ne soient pas d'accord et hop, au suivant, on recommence le jeu des chaises musicales. Tout se jouera donc sur la réforme des retraites. Si le cornu supprime tout, il reste, sinon c'est le siège éjectable. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon le Palais Bourbon, Matignon, Bercy et l'Elysée ne seraient qu'un gigantesque cimetière. Et puis du côté pharma, on reparle de Trump qui a striké un deal avec AstraZeneca cette fois, un peu à la mode Pfizer d'il y a deux semaines. Cela devrait remettre une couche d'optimisme dans le secteur et les autres vont faire la queue devant la Maison Blanche pour avoir leur deal à eux en espérant que Trump ne leur fera pas une taco dans les semaines qui vont suivre. Et à ce sujet, quand on voit ce qu'on voit, on peut se dire déjà que rien n'est moins sûr. Le Japon est fermé ce matin, il n'y aura pas de chiffres économiques relevant ce lundi 13 octobre, c'est Columbus Day aux États-Unis. Le pétrole tente de revenir au-dessus des 60 dollars, mais c'est pas simple. Il ne sait visiblement plus à quel sein se vouer. Actuellement, le WTI est à 59,70. Du côté de l'or, c'est la fête au village, et le métal jaune s'échange à 4060. Quant au Bitcoin, il pense ses plaies et repart à la guerre. Il se traite à 115 000 dollars après avoir fait un plus bas samedi matin autour des 109 000. Bref, on commence la semaine dans le brouillard, mais persuadé que le soleil va se lever et que les oiseaux vont chanter, Trump souffle chaud et le froid. Xi ne répond pas, mais laisse son service de presse le faire. Les algos sont complètement déglingués et nous, on fait semblant de comprendre ce qui se passe. Les marchés, c'est un peu comme une relation toxique. Tu sais très bien que ça va mal se finir, mais t'as toujours l'espoir que cette fois, ça sera différent. Pendant ce temps-là, le private credit gonfle, les banques vont nous jurer que tout va bien et les investisseurs sont toujours confiants sur l'IA comme toujours. Si on regarde tout ça de loin, avec beaucoup de recul, on a l'impression qu'on est dans un grand casino où le croupier s'appelle Trump, la banque s'appelle Trump, le patron du casino s'appelle Trump, que même le videur s'appelle Trump, le tapis vert est chinois, les jetons sont chinois et toute l'électronique du casino est gérée par les Chinois et nous on vient là-dedans en pensant qu'on peut battre la banque et faire fortune. Le seul truc rassurant, c'est que quand tout va péter, on dira encore que c'était quand même vachement prévisible. En attendant, on va continuer à faire semblant d'être serein, à regarder les futurs remonter et à se dire que tout ça, c'est juste une correction technique ou un échauffement avant le crash final. Allez, bon début de semaine à tous et on se voit demain pour de nouveaux tweets et un nouveau Premier ministre français, si ça se trouve. Belle journée à tous et à demain.